Good Morning Business, le grand débat.
Il est 8h39 et nous sommes avec Stéphanie Hospital, fondatrice de One Ragtime, ce fonds d'investissement dédié aux entreprises de la tech que vous avez fondé avec Jean-Marie Messier, et Benaouda Abdedaïm, notre spécialiste international. On devrait être rejoint très vite par Denis Ferrand, directeur général de Rexecode. On va parler avec vous de ces remous, de ces tempêtes déjà sur les marchés financiers. Est-ce que ça complique votre tâche, d'abord de lever des fonds, de financer? Est-ce que ça fait baisser les valorisations? Est-ce que c'est plutôt bien du coup pour One Ragtime, ou est-ce que ça, au contraire, ça fait fondre votre portefeuille, Stéphanie?
Alors nous, on a la chance en fait d'avoir toujours investi dans des entrepreneurs et des sociétés très capital efficaces.
Ouais.
On s'est jamais enflammé pour les sociétés qui affichaient des valorisations astronomiques. On s'est toujours dit, comment est-ce qu'on accompagne des entrepreneurs qui se focalisent sur des vrais sujets, des vrais problèmes,
ouais,
et qui ont l'ambition de faire des entreprises, mais en ayant quand même une attention sur comment on va y parvenir.
Et donc, ils ne brûlent pas trop de cash.
Voilà, ça je pense que c'est à un moment, on se rend compte qu'il y a une équation assez simple, c'est si on veut durer longtemps, il faut investir, mais il faut aussi être capable d'avoir des temps longs de développement. Donc, il faut du cash.
Ouais.
Il faut avoir des modèles vertueux de développement. Donc, nous, on s'est toujours attaché à ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit en 2022 qu'on revient à un retour à la normale par rapport à la situation avant Covid. Donc, on a eu des excès de valorisation de société. On a eu des excès de cash qui, ouais, se sont traduits dans le phénomène des survalorisations sur les cryptos. On s'est dit que l'argent allait être facile à faire.
Et donc, là, ça se calme.
On est sur du long terme.
Ouais.
Donc, là, seuls les meilleurs vont résister. Donc, pour nous, en fait, comme on s'est toujours focalisé sur les meilleurs, on se dit, finalement, on va arriver à une situation de marché qui est beaucoup plus saine et à des fondamentaux d'entreprise.
Stéphanie Hospital, est-ce que parfois, du coup, pendant la bulle, on se dit toujours, même quand on est, comme vous, raisonnable, même quand on a... Voilà, on sait ce que vaut une entreprise et donc on surenchérit pas. Est-ce que quand même pendant 2-3 ans on est frustré parce qu'on voit les valorisations qui s'enflamment et vous n'avez pas voulu faire partie du grand casino? Est-ce qu'il y a des périodes de frustration? On se dit mince, on est quand même peut-être passé à côté de quelque chose.
Moi je me dis toujours qu'on passe jamais à côté d'une entreprise. L'important c'est celle qu'on a faite et celle qu'on va faire après.
Ouais.
Donc c'est des rencontres, hein, toutes les rencontres qu'on a pu faire autour des projets qu'on a financés dans One Ragtime. Il y a un moment, il y a un alignement des planètes, on a envie de travailler ensemble, on a envie d'avoir un bout de chemin ensemble, parce que c'est ça aussi, hein. Investir c'est des temps longs,
ouais.
Là encore donc on est parti ensemble pour quelques années, donc aujourd'hui quand on regarde les sociétés qui durent, elles savent passer des crises. Donc là c'est aussi le conseil que je donne à tous les entrepreneurs, ça va être dur, ça va tanguer, mais à la fin, ceux qui tiennent encore le cap après la tempête, ils seront là.
Alors justement, vous parliez des temps qui sont durs. On accueille Denis Ferrand, hein, qui nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Denis,
bonjour.
Directeur général de Rexecode. Vous sortez un baromètre avec BPI France. Principale info, ce coup de frein, hein, sur l'investissement et la trésorerie des TPE-PME au troisième trimestre. L'essoufflement se confirme. Les difficultés s'accumulent, hein, pour le troisième trimestre. À quoi s'attendre pour la suite?
Mais effectivement, on sort un peu de cette situation où il y avait un cash qui était très abondant, et d'ailleurs qui reste encore très abondant. Quand on regarde, alors l'enquête que l'on sort est une enquête sur le sentiment des chefs d'entreprise.
Ouais.
C'est toujours très intéressant de les regarder par rapport à l'objectivation que peuvent donner des indicateurs économiques, comme dans les comptes financiers, où on se rend compte que le niveau de cash qu'il y a dans les entreprises reste encore élevé.
Ouais.
Mais il ne progresse plus et surtout, il commence à diminuer. Mais globalement, il y a une situation de trésorerie qui commence à se dégrader, mais qui part d'une situation qui est très favorable. Et la dégradation, elle vient bien entendu de l'augmentation de tout un ensemble de coûts, du fait aussi que jusqu'à présent, les entreprises ont investi. Rappelez-vous les chiffres du troisième trimestre sur l'estimation du PIB. L'essentiel de la croissance provenait de l'investissement des entreprises.
Ouais. Et là, il y a un patron de PME sur deux qui dit ne pas plus vouloir investir dans les prochains, ouais, mois quand même. Hein.
Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est en train de changer. Effectivement, on a eu jusqu'à présent, parce que précisément le cash était là aussi. Et donc une partie de la diminution de la trésorerie que relèvent les chefs d'entreprise,
ouais,
vient aussi de ce qu'ils ont investi. Et donc désormais, il y a moins d'intention d'investissement. Et aussi, je pense que l'une des informations que je trouve assez parlante dans cet indicateur de ce mois-ci, c'est les motivations de l'investissement. On se rend compte que peut-être d'ailleurs plus dans l'intention des prochains investissements que dans ce qui s'est fait jusqu'à présent, il y a une volonté de transformation de l'entreprise dans une dimension qui incorpore de plus en plus une réponse aux enjeux environnementaux, qu'il s'agisse de tri des déchets, d'économie d'énergie. C'est une modalité qui ressort de plus en plus souvent comme facteur motivant l'investissement, et c'est également attendu pour les prochaines années.
Ouais, on voit quand même les PGE aussi, hein, 10% des chefs d'entreprise qui ont peur de ne pas pouvoir les rembourser parce qu'ils ont commencé à puiser dedans justement pour payer l'inflation du coût des matières premières ou les hausses de salaire. Ouais. Benaouda, c'est vrai que les nuages quand même s'amoncellent un peu. On avait l'impression, on espérait qu'en France on soit un peu préservé, ce qui est encore vrai, hein, par rapport à nos voisins, les Britanniques et leur plan de rigueur tout à l'heure. Mais quand même là, ça se corse, non, globalement ?
Ça se corse globalement, et pour aller plus loin, mais finalement qui est tout à fait en écho avec ce que disait Denis Ferrand, vous prenez la Chine, où un certain nombre d'indicateurs leur sont particulièrement alarmants. Deux seulement. La crise immobilière. Il y avait un article dans Yitzhai, qui est un grand média économique de Shanghai, ce matin, qui raconte comment un promoteur immobilier offre 10 années de tickets de métro pour tout acheteur d'un appartement, parce que mois après mois, les prix reculent et qu'ils n'arrivent pas à écouler leur stock. Et encore une fois, c'est dans un média
public. En Chine, ils détruisent parfois des immeubles parce qu'ils n'ont pas trouvé d'offres, et pour pas que le marché s'engorge, quoi.
Et puis un autre indicateur, c'est le marché du travail en Chine qui est de plus en plus sombre.
La jeunesse aussi chinoise, des diplômés qui ne trouvent pas d'emploi.
Tout à fait. Hier, le ministère chinois de l'éducation a sorti tout un document pour expliquer qu'il allait y avoir 820 000 diplômés de l'enseignement supérieur de plus par rapport à 2022, sachant que ça fait 11 600 000 personnes pour qui il faut trouver un emploi, et un emploi si possible rémunéré correctement. Et le ministère de l'Éducation lance des initiatives tous azimuts pour inciter les entreprises à embaucher, pour lier les universités aux entreprises, pour inciter également le secteur public à se pencher sur ce dossier, parce que, comme le dit un quotidien hongkongais, il en va de la stabilité économique et sociale de la nation.
Et donc politique.
Et donc ce sont deux indicateurs parmi d'autres qui montrent l'inquiétude de la deuxième économie mondiale.
Stéphanie Hospital, dans les valeurs de technologie justement, est-ce que vous sentez vous aussi, parce que pendant longtemps, hein, la Chine a été un moteur, il y a des gros investisseurs chinois sur le marché, il y a d'ailleurs beaucoup d'entreprises chinoises qui ont racheté récemment des entreprises dans les jeux vidéo en France par exemple, est-ce que vous avez l'impression que cette source-là aussi va se tarir,
hein? Mais elle est déjà tarie, hein. J'avais des chiffres comme quoi en Israël, il y a 3 ans, la collecte faite auprès des investisseurs chinois représentait pour certains fonds jusqu'à 60% de leur capacité d'investissement. Et ça y est, c'est terminé. Donc la Chine s'est repliée sur elle-même. Je pense qu'il y a aussi un facteur d'instabilité pour une entreprise, de dire si j'ai une entreprise chinoise qui vient à mon capital, est-ce que ça va être durable ? Est-ce que le patron à un moment ne va pas se retrouver
en prison
quelque part, mais plus en tout cas au manette de sa société. Je crois que c'est un gros facteur d'instabilité. Et puis, on a vu aussi qu'il fallait qu'on ait une capacité en Europe, et c'est d'ailleurs pour ça que Apple rapatrie une partie de sa production de microprocesseurs. Il fallait qu'on soit en Europe, aux États-Unis, indépendant de la Chine, non plus simplement pour toute la production et l'usine que la Chine représentait, mais aussi pour toute notre industrie high-tech. Donc, je crois que là, on est face à un pays qui se referme, mais après, il y en a d'autres qui vont s'ouvrir encore plus. Hein. On va rentrer dans une ère de collaboration probablement plus forte avec l'Inde, avec les pays asiatiques. Et je crois que ça, c'est bien de rééquilibrer en tout cas le rapport des forces.
Alors justement, la question qu'on pose ce matin, c'est est-ce que c'est réversible, Benaouda ? Est-ce que la Chine peut se rouvrir ? C'est-à-dire qu'on voit là, avec le G20, le dialogue Xi Jinping-Biden, c'est quand même inédit depuis l'élection du président américain. On voit quand même la Chine qui est à l'APEC, Xi Jinping, encore une fois. Est-ce que c'était peut-être pas de la politique jusqu'à sa réélection ? Et est-ce que vous pensez qu'on peut renverser la tendance ? Est-ce que la Chine peut revenir sur le marché mondial ? Et est-ce qu'on peut arrêter la brouille ? Ou est-ce que, malheureusement, pour le commerce, le divorce est là.
Cette séquence du G20 a représenté une suspension dans la dégradation de la relation, plus qu'une relance. Ouais. Parce que les Chinois, eux, disent ce n'est pas nous qui nous replions, c'est vous qui nous fermez la porte au nez. Ce qui n'est pas exactement la même approche.
Ce qui n'est pas faux, d'ailleurs.
Tous les jours, nous avons encore une fois en Allemagne qui a refusé
le port d'Hambourg.
Le port d'Hambourg, mais surtout la cession de deux entreprises de semi-conducteurs.
Ouais. Semi-conducteurs.
Et l'Allemagne représentant, disons, la nation occidentale peut-être la plus à même à accueillir et à aller investir en Chine. Quoi qu'il en soit, Joe Biden, lors du compte-rendu de sa rencontre avec Xi Jinping, a quand même dit que les pratiques de la Chine étaient contraires fondamentalement à l'économie de marché et qu'elles nuisaient dans leur ensemble, non seulement aux familles et aux entreprises américaines, mais aux familles et aux entreprises du monde entier et aux travailleurs. Donc, il y a fondamentalement cette idée de la décorrélation entre deux mondes et les Chinois ont décidé, après ce congrès du Parti communiste, une diplomatie tous azimuts, notamment dans leur région de prédilection qu'est l'Asie. Et là où, effectivement, Joe Biden a rejoint son pays pour un événement familial particulier, le mariage de sa petite-fille, Xi Jinping, lui, a choisi d'aller à Bangkok pour ce sommet de l'APEC et pousser son agenda, son programme en matière de zone de libre-échange dans la ceinture du Pacifique.
C'est un changement des règles, hein, si effectivement on va vers cette division du monde en deux, la décorrélation de la Chine et de son écosystème avec l'Europe et les États-Unis, pour les entreprises, pour les PME, Denis, c'est beaucoup de nouveaux investissements et des coûts supplémentaires, et pour les consommateurs sans doute, l'inflation qui va s'installer parce que ça coûtera plus cher.
Alors, je ne sais pas d'ailleurs si on doit décomposer en deux ou si on doit décomposer en trois.
Ouais.
C'est aussi, est-ce qu'on n'a pas en réalité une structuration d'espace qui est en train de se faire avec effectivement un espace assez intégré à l'intérieur de l'Asie, aux États-Unis, avec la renégociation de l'ALENA notamment qui était intervenue il y a quelques années, et puis l'Europe, mais avec une Europe qui a quand même du mal à trouver une identité commune et qui se trouve de toute façon de plus en plus concurrencée sur les déterminants de sa compétitivité par ce qui se passe sur le prix de l'énergie. Il faut quand même bien regarder les écarts d'évolution de prix de l'énergie, de cet intrant fondamental qu'est l'énergie entre les États-Unis et l'Europe. Ouais. Et donc on sent bien qu'il y a un tiraillement extrêmement fort qui est en train de se faire, et s'il y a des choix d'investissement à faire de la part des entreprises, c'est pas je dois être présent dans les trois pôles que je viens d'identifier, Asie, Amérique et Europe, mais de plus en plus je vais arbitrer entre deux localisations, à savoir je vais arbitrer entre des localisations en Europe et des localisations en Amérique. Et ça, l'aspect énergétique est tout à fait déterminant pour les choix de localisation.
Stéphanie Hospital, on va disparaître de la... on va trier de la carte ? Économique ?
Mais pas du tout, justement. On a nos atouts à jouer.
Et
je crois que les atouts, c'est l'éducation. C'est nos grandes entreprises, c'est cette génération d'entrepreneurs que l'on a
vrai.
Vu
L'état
voir.
D'esprit a changé.
Ah oui, mais c'est formidable de voir ça. C'est qu'aujourd'hui, moi je fais plus confiance à des entrepreneurs pour nous dire qu'on va résoudre un certain nombre de problèmes énergétiques ou de problèmes sociétaux que de me dire que collectivement, ce sont les États qui vont le faire. Donc je crois qu'il faut être encore assez enthousiaste. Et quand on voit qu'il y a chef d'entreprise sur deux qui se dit qu'il va pouvoir investir.
Malgré tout ce qui se passe.
Malgré tout ce qui se passe, moi je vois.
C'est bien parce que Stéphanie prend le verre à moitié plein, hein, alors que Denis voit le verre à moitié vide.
Et il y a aussi une autre statistique, Stéphanie, c'est 59% des chefs d'entreprise interrogés par le baromètre se disent pénalisés par le manque de candidats. Là aussi, c'est un défi.
Ouais. D'ailleurs, c'est notre défi à venir dans les années qui viennent, c'est le plein emploi qui va avoir un déficit de talent, alors que ce soit ou de bras, excusez-moi pour l'expression, que ce soit dans des métiers à forte intensité d'accompagnement, ou que ce soit dans des métiers à forte intensité d'innovation. Donc là où ça se passera dans les années qui viennent, ce sont les pays qui ont réussi à attirer des talents internationaux, et c'est aussi un des atouts qu'on a aujourd'hui en Europe, c'est qu'on est encore un endroit où on a envie de venir vivre.
Ça fait du bien d'entendre Stéphanie Hospital, parce que je sais, Benaouda, en général, vous êtes un peu plus pessimiste sur l'avenir. l'avenir de l'Europe. Parce que, comme l'a dit Denis, on est un peu coincé entre les deux blocs. L'énergie nous frappe beaucoup plus sérieusement que les Américains. Est-ce que ça y est, vous êtes requinqué par ce que vient de nous dire Stéphanie Hospital? Est-ce que vous êtes rassuré?
Ce qui est frappant, c'est le parallèle qu'on peut aussi encore avoir avec la Chine. Là, encore une fois, le ministère de l'Éducation chinois s'inquiète, et le ministère des Ressources humaines, pardon, pas de l'Éducation, parce qu'ils ont un ministère des Ressources humaines.
Ils ont un DRH chinois.
Exactement, un général à Pékin.
Général en plus.
Qui s'inquiète très fortement du manque de bras dans l'ouest du pays. Et là, ça se compte en millions de personnes, notamment par exemple des techniciens supérieurs dans l'industrie manufacturière. Donc effectivement, l'attractivité est dans les deux sens. Et de ce point de vue-là, il y a une grande inquiétude chinoise. Ceci étant, et pour encore une fois aller dans le sens de Denis Ferrand, la question énergétique est fondamentale. La question aussi de la capacité extraordinaire qu'ont les États-Unis en ce moment, au travers de leurs différents dispositifs législatifs, dont la loi sur la réduction de l'inflation, à subventionner à tour de bras les secteurs industriels et de façon jugée tout à fait protectionniste et ultra-protectionniste par l'Union européenne. Et de ce point de vue-là, ça appelle d'une façon ou d'une autre une réponse globale des Européens et pas uniquement de la France ou de l'Allemagne.
Jean-Marc Daniel nous disait le contraire ce matin. Il nous disait mais tout ça, ça va se payer en impôts et tout. Et au fond, libérons les entreprises européennes, vive le marché. En fait, quelque part.
Il faut en parler aux constructeurs automobiles.
Stéphanie, elle dit c'est grâce à cette nouvelle génération d'entrepreneurs qu'on va relever tous ces défis.
Je l'espère. Alors, moi, il y a un point sur lequel je voudrais revenir en Chine. Quelque chose qui m'inquiéterait, c'est on a l'impression que les femmes sont de plus en plus reléguées dans des rôles subalternes par le gouvernement. Et ça, je pense que c'est une tendance qu'il faut surveiller vraiment avec attention. Ce qui voudrait peut-être dire que le pays va partir dans une dimension beaucoup plus complexe pour... je dirais l'égalité homme-femme, mais in fine, on voit bien dans toutes les économies que quand les femmes sont actives dans l'économie, c'est ce qui fait derrière 50% de plus de capacité à produire. Donc je pense que ça, c'est un point d'attention pour
nous. C'est sans doute une vision un peu malthusienne en Chine, parce qu'il y a des problèmes, effectivement, de trouver des emplois pour les diplômés. Et donc on se dit qu'en éliminant la moitié de la population du marché du travail, mais c'est une vision, évidemment, très rétrograde, très malthusienne, et qui ne fonctionne pas en général. Voilà, écoutez, merci à tous les trois, c'est un débat passionnant, j'espère quand même que l'Europe va s'en sortir, Benahouda, restez un peu optimiste quand même.
Ça reste le plus grand bloc commercial au monde, pour rappel.
Oui. Un marché de 400 millions de consommateurs, diplômés, comme le disait Stéphanie, donc on reste positif et optimiste ce matin, malgré l'étude de Denis.
On peut remplir un peu le verre quand même.
Voilà, on a envie de voir le verre à moitié plein, on va y arriver, et on le voit tous les jours sur ce plateau, effectivement.
Absolument.
Avec le vent d'optimisme qui flotte et qui règne tous les jours.